présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Lyon, des professeurs d'université qui sont ses adeptes. Il fait conférence pour leur expliquer comment ils peuvent pénétrer les jeunes politiquement et en faire des militants. Pour les servir. Puis il leur explique aussi la drogue les rend partis. Sont renforcés en France, à Lyon soigner. Centre commercial de la part de la préfecture. L'opéra. Parce qu'il en reste. Les explosions ont beaucoup de morts. Oui, ces explosions font beaucoup de morts. Blessés. Les édifices sont désertés. Les jours passent et le mauvais temps est là. C'est de plus en plus difficile aux jeunes gens pour trouver à manger. L'hiver est là, il fait froid, il neige. Ils ont quitté la bergerie parce qu'elle ne protégeait pas assez du froid. Se sont mis en route. Le froid, la neige, c'est de plus en plus difficile pour marcher. Cliff a décidé de trouver un endroit plus clément, surtout pour Brigitte qui a pris froid. Il marche dans la neige. La faim, le froid. Brigitte s'affiche, s'affaiblit, blie de plus en plus. Oui, Brigitte s'affaiblit de plus en plus. Le vent est glacial. Il marche dans la neige depuis des heures. La nuit est là. Ils sont seuls dans cette grande étendue toute blanche et froide. Ils se soutiennent tous les deux, gelés. Leurs membres leur font mal. Cogne sûrement un caillou qui était sous la neige, qui le fait tomber et en roulant fait tomber Brigitte. Et en tombant, ils sont tous les deux étourdis. Trou noir. Ils ne bougent plus. Peut-être sont-ils morts. Il y a le vent, et ce vent les recouvre de neige. La neige et le givre les recouvrent. Le ciel étoilé, la neige qui brille de 1000 petites étoiles. Pas de bruit, rien à part le vent. Le vent. vent s'est arrêté. Ils sont lancés tous les deux comme des statues de neige ou de marbre. Puis le jour vient, froid, le vent se lève, il est glacé, la neige dure comme du verre. On entend au loin le bruit du clopin. Puis d'un cheval. Il s'est arrêté parce qu'il sent quelque chose, une masse. Sur le chemin, quelque chose d'étrange. L'homme sort de la charrette et va voir cette masse de neige. Il essaye de la dégager petit à petit. Et voit deux corps enlacés, ceux qui semblent sans vie. Difficilement, il enlève autour d'eux et sur eux la neige givrée. Il veut débarrasser, délivrer les corps qui sont peut-être morts de cette neige et de ce givre. Il réussit à découvrir mieux les corps, voit un corps de jeune fille et celle d'un garçon. Puis, une fois qu'il les a libérés, il dépose les deux corps sur sa charrette et remonte sur sa charrette. Et s'en va. Réveille petit à petit. Il voit blanc, puis plus net. Il voit qu'il est dans une pièce qu'il ne connaît pas. Il reste comme ça, sans bouger, la tête vide. Bien sûr, le froid. Puis, il revoit des images de sa vie. Sa mère qui lui sourit, qui le baigne, le jardin, les promenades à bicyclette, des biais qui grimpent aux arbres. Lui a peur, il ne peut pas. Ce grand vide. Ce froid, oui, ce froid. Ce froid terrible, il fait mal de partout. Les os, il a froid. Ce froid qui brûle, comme les flammes. C'est difficile à marcher, à respirer. Oui, à respirer, à marcher. C'est envie de s'arrêter, et de se coucher, même dans le froid. Le froid s'estompe. Et vient Judith, la belle Judith. Elle est près de lui, le berce. Le vin est rouge. La robe de chambre est blanche comme la neige. Le froid. Judith est brûlante comme le feu. Le feu, il entend les explosions, le feu, les flammes, les gens qui courent de toutes parts, qui hurlent, et tout se sent. Qui gicle, même sur son visage. Oui, même sur son visage. Il tombe dans la neige. Il se laisse aller. Il veut oublier. Dormir. Dormir à en mourir. Il n'en peut plus marcher. Il fait des pas dans la neige. Oui. Dans les neiges, dans cette neige, l'impression de s'enfoncer dans ce blanc, plein d'étendue blanc. Puis, plus rien. Un bruit sourd. Quelque chose qui est autour de lui ne comprend pas. Tiens, Alexis qui lui sourit. Alexis est heureux. Il est content. Ne lui arrive rien de mal. À la pêche, il vient de voir les petits tomber à l'eau, pourrir, oui, pourrir. Et toujours ce bruit. Toujours ce bruit. Mais c'est mon groupe. Oui, c'est mon groupe. Pourquoi les ai-je quittés? Et la radio? Mais mon scooter. Ils volent. On me l'a volé. Tiens, Serge. Mais qu'est-ce qu'il fait dans mon lit? Il mange, Serge. Il manque des BN. Il boit du coca. Lui aussi aime bien Judith. Judith, où es-tu? Où suis-je? Que de brume dans ma tête. Il se sent bien. Il n'a pas envie de bouger. Il a chaud, chaud. Peut-être est-il mort? On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas comment c'est. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Là, en tout cas, il se sent bien. Et si Dieu vient le voir? Que va-t-il lui dire? Il ne sait pas. Et puis quel Dieu? Le Dieu des chrétiens ou celui des Grecs antiques? Lorsqu'il était enfant, il aimait mieux les dieux grecs. Et Achille, sa mère, je lui en parlais. Il a toujours aimé l'Antiquité, surtout la Grèce. Ah, l'Iliade. Oui, l'Iliade. Il a toujours aimé l'Iliade. L'Iliade. Il y a lu peut-être plus de 100 fois. Mais pourquoi pense-t-il à tout ça? Ah oui. Ah oui. Je suis mort. Alors, il paraît que les morts revoient leur vie. Et c'est ce que je fais. Revivre leur vie. Et pourquoi les morts revivent-ils leur vie? Pareil qu'ils revivent ça très rapidement. Et que c'est un supplice. Pour moi, non. Peut-être faut-il qu'il ait plus vécu. Là, il a peu vécu. Et tout de même, revoir tout ça. Et l'Iliade. Et Iphigénie. Comment s'appelait-elle? Non, pas Iphigénie. Ah oui, Florence. Florence, oui. Florence.
Et pourquoi ai-je pensé Iphigénie? Drôle de nom, mais pourquoi? J'ai mal aux extrémités de mes doigts. Eh, ce doit être le froid. Mais si je sens le froid, c'est que je ne suis pas mort. Alors, pourquoi est-ce que je pense à tout ce qui m'est arrivé? Je suis fou ou mort? Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Mais quelque chose me manque. Oui, quelque chose me manque. Et quoi? Ah oui, une arme. Une mitraillette. Oui, une mitraillette. Je veux une mitraillette. J'en suis bien servi la dernière fois. J'en ai tué.
Réveillez-vous.
Est-ce que Dieu va me le reprocher? Oh non. Et puis, je lui dirai que c'est pour me défendre. Mais je ne peux pas lui mentir. C'est tout. Que je suis fatigué. Tout d'un coup. Ses yeux se ferment. Petit à petit. Il se laisse plonger dans le sommeil. Sommeil lui fait du bien, la fatigue de rêver tout ça et de penser. Il dort sans rêver. Il ne voit rien. Puis c'est blanc, c'est noir, puis plus rien, même pas un bruit. Là, il ne sent plus rien, même pas les extrémités de ses membres. Peut-être est-il mort? Et puis après, il est mort? Non. Il se dit, je me repose, je dors. Alors, laissons-le se reposer. Pièce faite de lumière. C'est la clarté d'un jour de neige ensoleillé, très froid. Cliff, bien au chaud, Oui, il est bien au chaud et c'est le principal pour lui. Le héros de... Puis, la lumière décline. Puis, la nuit. Il voit un décor qu'il ne connaît pas. C'est une chambre. Il voit une chambre avec des meubles rustiques, très anciens. Il y a une grande fenêtre, sans volets ni rideaux, qui apporte une grande clarté lumineuse et blanche. En face du lit, une cheminée avec un bon feu. Ne bouge pas. Tu n'en as pas envie. Tu sens faible. Encore mal aux extrémités de ses doigts et de ses pieds. Et reste un moment comme ça, sans réfléchir. Il a entendu le bruit d'une porte, se tourne vers la droite et voit qu'il rentre dans la pièce un homme grand, mince, des cheveux blancs, court, visage plat, mais beau. Il va voir dans les 30 ans, habillé d'une blouse blanche, avec une encolure à la russe et un pantalon noir. Cliff ne bouge pas. L'homme est près du lit. Il lui demande, vous allez mieux ? Lui dit, je crois, oui, l'homme lui dit, je m'appelle Laurent Ferré, et vous, lui dit, Cliff, recours-toi, où suis-je? Vous êtes à Beauregard, un petit bourg du centre de la France, et vous venez d'où? De Paris. Vous allez où? Vagabondons. Par ce temps, c'est très dangereux. Nous avons jamais eu un hiver aussi froid. Je vous ai trouvé inanimé et gelé. Heureusement que j'ai fait un peu de médecine et j'ai pu vous soigner. Mais vous avez failli mourir. Tout est gelé. Il n'y a pas un qui vive dehors. J'ai eu de la chance que ce jour-là, j'étais obligé de sortir. Je vous remercie. Je suis ici. Depuis combien de temps? Cela fait une semaine. Cliff, on en est clair, se souvient. Brigitte, où est Brigitte? Je lui dis, elle est dans une autre chambre. Elle est très bien. C'est votre sœur? Non. L'homme se dit qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'affection pour la jeune fille, parce qu'il a mis du temps pour se rappeler qu'elle était avec lui. Cliff se met à pleurer. Il a mal. L'homme lui demande, pourquoi pleurez-vous? Vous Vous avez mal?
Oui, de ne pas avoir pensé plutôt à Brigitte. J'ai peur de ne pas assez l'aimer, parce que je me suis rappelé elle, Colinel, trop tardivement. J'aurais dû penser à elle en premier. Et là, je n'ai pensé à rien, même pas à elle. Le lui dit, c'est normal, votre cerveau était engourdi par le froid. Ne faites pas de soucis pour ça, reposez-vous. Vous voulez peut-être manger quelque chose? Je sais pas. Bien, je vais vous chercher du bouillon de poulet. Ça vous redonnera un peu de force.
Et l'homme sort de la pièce.
Et Griff est triste. Se sent très triste.
Se demande si son amour pour Brigitte n'était pas une comédie, comme se font des adolescents, une comédie que se faisait son esprit. Oui, comme des jeunes adolescents se jouent la comédie de l'amour pour faire bien vis-à-vis d'eux et de leur entourage. Il a très honte. Il a très honte. Pauvre Brigitte. J'aurais dû crier son nom dès que je me suis réveillée. Si elle a failli mourir de froid, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai embarquée dans ce voyage. Et puis peut-être que son oncle était bien avec elle. Mais non. Moi, j'étais jaloux. J'inventais des choses. Mais non. Qu'est-ce que j'ai? J'arrête. Il soupire.
La porte s'ouvre et apparaît Laurent avec un bol blanc qui s'approche du lit.
Aide Cliff à se soulever et à boire. Le bouillon, c'est chaud, ça fait du bien à Cliff, c'est bon, c'est un bouillon bien épais, c'est très bon. Après avoir bu, il n'a plus faim, il a sommeil. Laurent lui dit, je vais vous laisser vous reposer, après je verrai pour voir vos pieds. Il faut encore y mettre de la pommade.
Et il le laisse.
Et Cliff s'endort. Il se sent bien. Il a l'impression d'avoir le ventre plein. se réveille. Il voit face à lui, souriante, penchée contre lui, les cheveux défaits, Brigitte, sa Brigitte. Elle lui demande, tu vas mieux? Il lui dit, Brigitte. Elle lui sourit et lui demande, comment vas-tu? Elle lui dit, très bien, j'ai repris plus vite des forces, plus vite que toi. Il lui demande, où es-tu? Elle lui dit, dans une chambre, près de la tienne. Tu sais, nous avons eu de la chance, nous avons failli mourir. Il lui dit, c'est ma faute, c'est moi qui t'ai mené dans cette galère. Elle lui dit, non, c'est la faute des autres. Ils ont cherché à nous faire du mal plusieurs fois. Maintenant, nous sommes libres. Il lui demande, qui est celui qui nous héberge? Elle lui dit, un homme qui vit seul. Nous sommes dans une ferme. Il semble très bon. Et a soigné mes plaies. Elle lui dit, je suis heureux que tu ailles bien. J'ai eu peur pour toi. Elle lui dit, et moi pour toi. Se penche pour lui donner un baiser. La porte s'ouvre et apparaît Laurent avec le sourire. Vous voilà réunis. Je vois vos pieds et si tout va bien. J'ai fait de la médecine. J'ai arrêté parce que j'avais pas assez d'argent pour poursuivre. Il soulève les couvertures de Cliff. Voit qu'il est tout nu. L'homme lui examine les pieds, les jambes, lui écoute le corps, lui regarde les yeux et lui dit, ça semble bien aller. J'ai eu de la chance. Il lui dit, merci pour tout. C'est comment vous remercier? Laurent lui dit, en guérissant. Et je vais vous chercher à manger. Maintenant, il va falloir bien manger et boire pour prendre des forces. Et il les laisse. Cliff dit à Brigitte, nous avons eu de la chance. Elle lui dit, oui. Il voit qu'elle a une chemise de nuit blanche et lui est nu. Et tous les deux se reposent auprès des forces. Cliff reste encore au lit. L'après-midi, on le met dans un fauteuil près de la cheminée. Brigitte reste près de lui. Elle lui chante des chansons, lui parle du temps qui radoucit et de l'homme qu'elle trouve très gentil. Elle a trouvé dans la bibliothèque un livre qu'elle lit à Cliff de temps en temps dans l'après-midi. C'est Les Illusionnistes. Un livre étrange que Cliff a des difficultés à comprendre. Voir entre la lune et moi, deuxième époque. Ils se nourrissent bien et reprennent des forces. Laurent est souvent dehors pour s'occuper de sa ferme, donner à manger aux bêtes, réparer les dégâts dus au froid. Il est maigre, semble fragile, mais a beaucoup d'endurance et est plus fort qu'on ne le croit. C'est un homme qui a l'habitude de vivre seul et ne doit compter que sur lui. Il est solitaire, mais aime les gens. Les jours passent. Laurent a donné des vêtements à Cliff, une chemise de nuit et prêté un pantalon. Et puis Cliff se sent suffisamment fort pour pouvoir essayer de marcher. Il lui dit: je vais essayer de marcher. Et, aidé de Brigitte et de Laurent, il essaye de faire quelques pas dans la pièce. C'est difficile parce qu'il est resté plusieurs semaines au lit. Et il est encore faible, mais il y arrive petit à petit. Maintenant, tous les jours, il se lève et fait quelques pas dans la pièce. Il mange même à table avec Brigitte et Laurent. Laurent lui dit: quand il fera un peu plus chaud, vous sortirez dans le jardin. Cliff peut faire sa toilette tout seul maintenant. Il se sent revivre. Il dit à Brigitte: nous pourrons bientôt partir. Fait particulièrement doux, on fait descendre Cliff au jardin. Il sent les escaliers car sa chambre est au premier. Et au rez-de-chaussée, on fait sortir par la porte qui donne dans le jardin, c'est-à-dire la porte de derrière. Parce que la porte de devant donne à une cour.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.